Merci Laurent, je te remercie infiniment de m'avoir invité. Je remercie aussi tous les membres du LERMA de votre accueil et j'ai grand plaisir à venir ici depuis le Septentrion, voilà, me ressourcer en Provence. Voilà, donc, alors peut-être que le thème dont je vais parler aujourd'hui, les choses dont je vais parler, vous sembleront ésotériques. Bon, je suis prêt, bien sûr, disposé à répondre à des questions après. Voilà, alors je souhaite évoquer aujourd'hui deux voies radicales de la première révolution anglaise. Alors vous savez, la révolution qui s'est traduite par l'abolition de la monarchie, l'instauration du Commonwealth et du protectorat à la suite du coup d'État mené par Oliver Cromwell. Les deux voies dont je vais parler sont celles du soldat de l'armée du nouveau modèle Edward Saxby et celle du niveleur John Lilburn. Alors d'abord, les deux hommes se connaissaient. Dans l'un de ses pamphlets qui s'intitule « The Jugglers Discovered », dont je vais reparler, qui a été publié en 1647, Lilburn affirme que Saxby était en possession de certains de ses pamphlets, de certains de ses écrits. Et dans ce pamphlet en particulier, il fait l'apologie du tyrannicide. Alors, j'y reviendrai un peu plus tard. Les deux hommes se posaient en défenseurs des libertés du peuple d'Angleterre, liberté immémoriale d'un peuple supposément né libre, d'où le surnom de Lilburn, Freeborn John, et pourfendeur de tout type d'autorité exercée de manière arbitraire. Alors l'un et l'autre se confrontèrent notamment à Cromwell, le combattirent même à divers moments de la Révolution anglaise. Petite précision terminologique en préambule, les historiens contemporains ont pour habitude de nommer maintenant, les événements qui se déroulèrent entre 1640 et 1660, les guerres civiles britanniques. Moi, je revendique plutôt le qualificatif de révolution, qui me semble plus révélateur de la nature des changements qui eurent lieu, comme d'ailleurs on parlait jadis de la révolution puritaine en référence à ces changements. Je vais donc évoquer ces deux voies radicales tour à tour en montrant comment Saxby et Lilburn œuvrèrent à la défense de la liberté contre Cromwell. Je vais commencer par Edward Saxby, dont je vais retracer la carrière à très gros traits, si vous le voulez bien. Alors voici une photo, non pas d'époque bien évidemment, mais une photo qui, voilà, c'est ça qui en fait est tirée de la jaquette d'un DVD d'une série hein, qui s'appelle The Devil's Whore, voilà, que je recommande d'ailleurs. Alors je m'arrêterai plus précisément après sur le pamphlet tyrannicide adressé à Cromwell, pamphlet qui s'intitule Killing No Murder. Alors Saxby grandit dans le Suffolk, comté qui se trouve dans la région de l'East Anglia, dans un environnement gagné aux thèses presbytériennes et extrêmement critique à l'égard de l'absolutisme Stuart. Il s'enrôla dans l'armée, où il côtoya Cromwell. Il fut élu agitateur en 1647. Il le demeura durant l'été 1647, période durant laquelle l'armée se radicalisa, alors que d'autres agitateurs furent congédiés, puis remplacés, et il participa activement au débat de Putney pendant l'automne 1647. Son premier affrontement public documenté avec Cromwell et son gendre Ireton date de cette époque, et la pierre d'achoppement entre les officiers supérieurs, ceux qu'on appelait les Grandees, et les agitateurs concernaient les droits politiques dont se verrait gratifié le peuple dans le nouvel ordre politique qui devait advenir à la suite de la victoire des troupes parlementaires sur les royalistes lors de la première guerre civile. Alors que Saxby défendait une conception juste naturaliste des droits politiques, ses opposants Cromwell et surtout Ireton exposaient leur vision élitiste des libertés publiques. Alors par un retournement de situation, Saxby servit la République, le Commonwealth, et donc Cromwell, en 1649, et fut envoyé en mission en France en 1641. Sa présence à Bordeaux, aux côtés des frondeurs de l'Ormée, c'est-à-dire le courant populaire de la Fronde contre Mazarin, est attestée en 1652, année pendant laquelle il traduisit en français et diffusa la troisième version de l'accord du peuple, Agreement of the People, l'accord du peuple qui était un projet de constitution rédigé par les dirigeants niveleurs, dont Lilburn, depuis la tour de Londres, où ils étaient emprisonnés pour avoir rédigé des pamphlets jugés séditieux. Donc Saxby traduisit ce pamphlet, ce projet de constitution, Agreement of the People, qui s'intitula L'accord du peuple en français. Alors, on ne sait pas si Sexby décida lui-même de traduire le projet de constitution, pour ce projet de constitution pour le moins controversé, ou s'il fut missionné expressément pour mener à bien cette tâche. La traduction révèle une ambiguïté de taille, ce qu'on considère être une ambiguïté de taille, concernant le rôle du Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État, c'était l'organe exécutif du Commonwealth. Alors, de manière générale, les historiens ne se sont pas penchés sur cette ambiguïté. Certains historiens ont mis sur le compte de la connaissance, on va dire précaire, qu'aurait eu Sexby de la langue française, le décalage entre le document original anglais et la traduction au style si barbare. Et là, je cite l'historien français du 19e siècle, Victor Cousin, qui considérait que la traduction qu'en fit Sexby en français était barbare. Peut-être parce qu'elle émanait d'un anglais, d'ailleurs. Il me semble qu'en l'espèce, on ne saurait imputer au traducteur Sexby les hésitations, voire les atermoiements du militant que fut Sexby. Le Conseil d'État, son rôle, ses agissements et les abus supposés dont il se rendait coupable constituaient une pomme de discorde majeure entre les dirigeants du Commonwealth et les niveleurs qui en fustigeaient l'autoritarisme, tyrannie dont il se disait être victime. Il s'agissait pour Sexby, missionné par le Conseil d'État, de traduire un projet de constitution dont l'une des clauses affirmait la souveraineté parlementaire aux dépens même du Conseil d'État lui-même, lequel devait purement et simplement disparaître. Vous voyez, donc là, il y a comme une ambiguïté de taille. Toujours est-il que Sexby reçut une récompense financière, décidée par le Conseil d'État, pour la mission qu'il avait accomplie en France, gage des bons et loyaux services qu'il avait rendus à la République, sans qu'on en connaisse pour autant la nature précise. Peut-être était-il alors dans les bonnes grâces de Cromwell. Sexby ne tarda pas de nouveau à s'opposer à Cromwell, après que celui-ci eut dissous le Parlement croupion en avril 1653, le Rump Parliament, et qu'un peu plus tard, il eut reçu le titre de protecteur. Sexby n'eut alors de cesse d'intriguer contre le protecteur depuis les Pays-Bas espagnols, où il s'était réfugié. Il manœuvra afin d'obtenir le soutien de la monarchie espagnole contre Cromwell, entra en contact avec Charles II et les royalistes anglais. Ces manigances lui valurent l'inimitié de Cromwell, qui dans le discours prononcé à l'occasion de l'ouverture de ce second parlement en septembre 1656, vilipende, sans le nommer, cet individu malfaisant, et je cite Cromwell, wretched creature. Hein, donc à propos de Sexby. Et Cromwell souligne l'implication de Sexby dans des complots associant, selon lui, radicaux et royalistes anglais, et dont il fait l'homme de main du parti royaliste, traître à la nation, et je cite Cromwell. Est-ce que j'ai une diapo là, probablement? J'ai l'impression que je suis en train. Voilà, donc ça c'est The Agreement of the People. Ça c'est Killing the Murder, c'est pour après. Voilà. Je cite Cromwell dans son discours au Parlement. They sent him to Madrid to advise with the King of Spain to lend forces to invade his nation. This person, qu'il ne nomme pas, was sometimes a colonel in the army. Grâce à son réseau d'espions, Cromwell était au fait des négociations entre Sexby, la monarchie espagnole et les royalistes anglais. Sexby n'était toutefois pas qu'un simple exécutant, comme le sous-entend le propos de Cromwell, mais bien un instigateur dont l'opposition au protecteur trouva son apogée dans la rédaction et la diffusion du pamphlet tyrannicide Killing No Murder, publié en 1657, probablement dans les Pays-Bas espagnols. Et ce pamphlet fut publié au moment où on offrit la couronne à Cromwell, couronne que Cromwell décida de refuser. Alors, j'ai peut-être été un peu long sur l'évocation de la carrière foisonnante. Alors, voici Killing No Murder, la page de garde. J'ai peut-être été un peu long sur l'évocation de la carrière foisonnante de Sexby, mais il paraissait utile non seulement de bien poser le contexte, mais de décrire la trajectoire singulière de ce radical anglais, afin de mieux saisir ce qui conduisit à composer Killing No Murder, pamphlet diffusé en Angleterre, pour lequel son auteur fut finalement arrêté et emprisonné à la Tour de Londres, où il mourut. Killing No Murder est un redoutable acte de résistance contre Cromwell, qui est dépeint comme un tyran à abattre. Alors je voudrais m'arrêter à présent sur ce pamphlet, lequel connut une longue postérité, caractérisée par de nombreuses éditions anglaises et des traductions en français. La première de ces traductions parut en 1658, un an après l'original, hein, très très rapidement. Voici la page de garde donc de la traduction française. Chateaubriand décrit ce pamphlet comme le pamphlet le plus célèbre de son époque. Et dans un autre ordre d'idées, le situationniste Guy Debord le cite comme étant l'un des écrits les plus fameux qu'ait produit la Révolution anglaise. Outre le fait qu'il aurait retiré le sourire à Cromwell pour le restant de ses jours, bon, on peut le comprendre, comme l'écrit Chateaubriand, bon, à la suite d'historiens anglais. Alors, qu'avait donc de si spécial ce pamphlet ? Ce n'était pas le premier pamphlet tyrannicide, mais celui-ci visait personnellement et expressément Cromwell, en particulier dans une préface parodique féroce, assassine, si j'ose dire, parce qu'il préconise l'assassinat, hein, et toute empreinte d'ironie, comme le montre l'adresse que je vais vous citer, « To your highness, justly belongs the honor of dying for the people ». Sexby se dit indigné par le comportement et le gouvernement tyrannique de Cromwell, et c'est cette indignation qui lui impose de rompre le silence à un moment où Dieu met son peuple à l'épreuve afin que ce peuple né libre brise ses chaînes et recouvre sa liberté séculaire, primordiale pourrait-on dire. Au providentialisme maintes fois affiché par Cromwell répond l'expression d'une même confiance dans la providence qui, par le tyrannicide, redonnera sa liberté au peuple anglais. Comme dans les Écritures saintes, les tyrannicides sont en dernière instance guidés par la main de Dieu. Alors, la rédaction de ce libelle sulfureux qu'est Killing No Murder, pour motiver qu'elle ait été par cette éthos de l'indignation et par l'inimitié de Sexby pour Cromwell, fut en premier lieu inspirée par les accusations proférées par le Speaker de la Chambre des communes en janvier 1657 à l'endroit de Miles Syndercombe, auteur de plusieurs tentatives manquées d'attentats contre Cromwell durant l'automne 1656 et l'hiver 1657, attentats ourdis par Sexby lui-même et ses acolytes depuis les Pays-Bas espagnols. Sexby met un point d'honneur à défendre la réputation posthume de Syndercombe qui se suicida après avoir été condamné à mort. L'un des intérêts de Killing No Murder est qu'il oscille entre une réflexion sur la légitimité de l'assassinat du tyran Cromwell au nom de la défense de la liberté et une contribution théorique au débat sur le tyrannicide entendu comme acte politique fondateur de la restauration des libertés piétinées par tout tyran. L'argumentation de Sexby se décline en trois volets. Le premier, il pose la question de savoir si Cromwell est véritablement un tyran. S'appuyant sur la typologie aristotélicienne, distinguant les tyrans sans titre usurpant le pouvoir, des tyrans arrivés légitimement au pouvoir mais exerçant leur fonction de manière autoritaire, il conclut que Cromwell est un tyran par usurpation, le Parlement croupion ayant été dissous par la force et la mise en place du protectorat s'étant opérée sans le consentement du peuple. Sexby conclut également que Cromwell est un tyran en exercice, in exercitio, feignant de défendre les libertés du peuple, mais poursuivant ses propres fins par la ruse et la tromperie, appauvrissant le peuple par la collecte d'impôts injustes et faisant la guerre contre l'Espagne aux seules fins de divertir le peuple. Et je trouve que là, il ne manque pas de sel que Sexby, au retour de sa mission en France, ait envoyé à Cromwell un rapport dans lequel il s'est prononcé contre une paix générale en Europe et, d'une certaine manière, ait promu la guerre contre l'Espagne. Dans une deuxième partie, Sexby répond à la question de savoir s'il est légal de tuer un tyran. Là encore, c'est au nom du droit naturel qu'il justifie le tyrannicide. Il s'appuie sur de nombreuses sources classiques et bibliques, mais aussi plus récentes, et rend au passage hommage à Milton. Milton le savant, Learned Milton, empruntant à sa première défense du peuple anglais l'argument selon lequel les hommes tiennent de Dieu l'autorité de commettre un tyrannicide, surtout quand la justice humaine ne peut être rendue. Sexby écrit ainsi « If God commanded these things, 'tis a sign they were lawful and are commendable. » Citation qui est adaptée du chapitre 4 du pamphlet de Milton. Enfin, dans une troisième partie, Sexby se demande si se débarrasser d'un tyran est utile à la communauté. Il justifie les complots contre Cromwell dans la mesure où le protecteur s'est arrogé les pleins pouvoirs et a bâti autour de lui un système de gouvernement composé d'affidés dont les membres d'un parlement aux ordres du tyran. Dans ces circonstances, il convient de rompre le serment d'allégeance dû à Cromwell. Il est même légitime de le faire. Et ce commentaire rappelle l'engagement controversy des années 1649-1650, au moment où le Commonwealth inspira un serment d'allégeance à la République nouvellement constituée. Recourant à la casuistique, les participants à cette controverse s'exprimèrent en particulier sur le droit de chacun de s'absoudre du serment d'allégeance envers Charles Ier et donc de désacraliser ce pacte afin de prêter serment à la République. Une discussion semblable, qui portait d'ailleurs en germe cette controverse, avait eu cours à Putney, à l'automne 1647, opposant Ireton et Cromwell aux niveleurs et aux agitateurs, lesquels, contrairement aux premiers, donc contrairement aux Grandees, jugeaient parfaitement légitime le renoncement au serment d'allégeance au roi et promouvaient une approche contractualiste du corps politique et social, dont les engagements sont autant de manifestations, engagements en tant que serments. Sexby n'avait alors pas pris la parole, mais il avait assisté à cet échange. Afin de débarrasser l'Angleterre du tyran Cromwell, Sexby compte sur le soutien de ceux qui ont inlassablement défendu la liberté. Je cite un extrait du pamphlet. « Hitherto I have spoken in general to all Englishmen. Now I address my discourse particularly to those that certainly best deserve that name, ourselves, that have fought, however unfortunately, for our liberties under this tyrant. To us particularly, it belongs to bring this monster to justice. » Alors, qui est ce nous ? Sexby n'en dit pas davantage. S'agit-il des soldats de l'armée du nouveau modèle ? S'agit-il des niveleurs ? Ou peut-être tout bonnement d'une alliance de circonstances, car il faut faire feu de tout bois ? Sexby reprend l'argument exposé dans des pamphlets niveleurs de l'été 1649, selon lequel le gouvernement despotique du roi Charles était encore préférable aux joues tyranniques de Cromwell. Vermine dont il faut libérer le monde. Et vermine, ce n'est pas moi qui le dis, je ne me permettrai pas. Je cite « Free the world of this pest ». L'influence des pamphlets niveleurs est ici prégnante. « Killing no murder » se clôt par ailleurs par une adresse aux soldats auquel Sexby rend hommage pour avoir défendu sans relâche la liberté au prix de leur vie parfois, mais dont il craint que certains soient devenus des instruments du pouvoir, des bourreaux du peuple en quelque sorte. Sexby considère l'armée comme la matrice et le fer de lance de l'émancipation du peuple d'Angleterre. L'armée résista à l'absolutisme royal, puis à l'absolutisme parlementaire, et enfin, pour partie d'elle à tout le moins, à la République oligarchique dirigée par le Conseil d'État. Son pamphlet, le pamphlet de Sexby, « Killing No Murder », concentre dans ses lignes un nombre important de débats qui eurent cours pendant les guerres civiles, au sein de l'armée en particulier. Sa défense du tyrannicide s'inscrit dans cette histoire tumultueuse. Ce pamphlet valut non seulement à Sexby d'être emprisonné, mais suscita des commentaires et des écrits polémiques, dont celui de Michael Hawke, intitulé « Killing is murder and no murder », qui, conformément à la pratique de l'animadversion, répond point par point à « Killing no murder ». Ici, vous avez la page de titre de ce pamphlet, dans lequel Hawke récuse pour l'essentiel la conclusion de Sexby selon laquelle Cromwell serait un tyran d'usurpation et d'exercice. Pour ce faire, il démontre les exemples utilisés par Sexby en soulignant qu'ils sont empruntés aux monarchomagues jésuites espagnols, en particulier Mariana et Suarez. Il s'agit évidemment de stigmatiser l'auteur de Killing No Murder et de discréditer ses thèses. Et cette accusation est également portée par le non-conformiste Richard Baxter dans son pamphlet A Key for Catholics, publié en 1659, et ça n'est pas une coïncidence, parce que 1659, c'est l'année de l'apparition de la deuxième édition de Killing No Murder, parution posthume. Alors, le qualificatif de jésuite, vous allez me dire, révélait de la langue de l'invective de l'époque, certes, tout comme celui de niveleur. Il est très probable toutefois que Sexby ait été initié à la pensée monarchomaque jésuite par le père Peter Talbot, qui devint à la Restauration archevêque catholique de Dublin, mais qui pendant le protectorat servit à Sexby d'entremetteur avec les représentants de la monarchie espagnole en Flandre, ainsi qu'avec Charles II d'Angleterre. Il est des points communs entre les thèses de Suarez et celles de Sexby, bien que celui-ci ne mentionne jamais le premier. Celles du jésuite espagnol sont enracinées dans le droit naturel, principe cher à Sexpi car il sous-tend sa conception des libertés publiques. L'accusation de collusion avec les jésuites n'est sans doute pas entièrement dépourvue de fondement, et sans doute pas fortuite. Alors, en sa qualité de défenseur de Cromwell, Hawke oppose au procès en illégitimité qu'intente Sexpi au protecteur un triple argument qui n'est pas sans rappeler la vision médiévale du pouvoir royal. Cromwell doit sa légitimité à Dieu, et Cromwell ne manqua pas d'ancrer son pouvoir d'ailleurs dans sa conception providentialiste du destin. Deuxièmement, il doit sa légitimité à ses exploits guerriers. Et enfin, il la doit au peuple qui lui apporta son consentement et le plébiscita. Ce sont les arguments de Michael Hawke. Selon Hawke, Cromwell ne saurait donc être un tyran d'usurpation, pas plus qu'un tyran d'exercice, dans la mesure où il n'exerce pas le pouvoir de manière absolue, mais il est attentif à l'avis exprimé par le Conseil d'État, lequel a toute légitimité pour siéger quand le Parlement vaque. Alors, cet argument qui souligne le rôle primordial du Conseil d'État dans la répartition institutionnelle des pouvoirs, mais qui évacue un peu vite celui du Parlement, n'est pas anodin dans la mesure où il rappelle les controverses de 1649 qui accompagnèrent la mise en place du Commonwealth, alors que les niveleurs égratignaient le nouveau régime, en premier lieu le Conseil d'État et Cromwell qui commençaient à y jouer un rôle de troupe premier ordre. La réponse de Hawke au pamphlet de Sexpi mêle réflexion théorique sur le tyrannicide et plaidoyer pour Cromwell. Tuer, killing is, murder and no murder. Tuer est et n'est pas assassiné. Exemple biblique à l'appui, ce n'est pas assassiné quand Dieu le justifie. En revanche, c'est bel et bien assassiné quand la victime est Cromwell. Évidemment, meurtre sacrilège qui trouve son origine et sa fausse légitimité chez les jésuites espagnols. Alors, Hawke y associe les niveleurs dans la réponse à la dédicace incendiaire de Sexpi. Je cite Hawke, « The ruin of his highness, this the levelers aimed at in the year 1649 ». Et vous voyez, il fait le parallèle avec l'année 1649. Je vais y revenir un peu maintenant. Je vais donc évoquer John Lelburn, voilà, dont vous voyez un portrait ici. Donc une autre voie radicale de la révolution anglaise, un des dirigeants du mouvement Niveleur, tout autant que l'auteur de Killing No Murder, les Niveleurs, en 1649, étaient accusés par les autorités du Commonwealth d'être des jésuites, c'est-à-dire des apostats et des traîtres. Lelburn, notamment, fut la cible de ces critiques virulentes, précisément parce qu'il n'épargna pas les dirigeants de la République. Au moment de la publication de Killing No Murder, donc en 1657, Lelburn est mort en 1657, durant l'été 1657. Donc la parution de Killing No Murder eut lieu un petit peu avant, mais à cette époque, Lelburn s'était converti au quakerisme et vivait en semi-prison à l'écart des débats politiques en cours. Auparavant, il avait passé une partie de son existence en exil ou sous surveillance étroite dans les geôles anglaises. Les relations qu'il entretint avec Cromwell connurent des aléas. Galvanisé par la dissolution par Cromwell en avril 1653 du Parlement croupion, assemblée qu'il jugeait tyrannique et liberticide, il entreprit de quitter son exil à Bruges, où, comme Sexpi, mais pas exactement au même moment, il avait côtoyé les exilés royalistes. Il entreprit aussi de rentrer en Angleterre. Il viola ainsi l'ordre de bannissement qu'avait prononcé le Parlement contre lui en 1652, espérant l'intercession de Cromwell en sa faveur, mais récoltant au contraire un nouveau séjour en prison et un procès. Une campagne de mobilisation en sa faveur fut organisée, menaçant de mettre en péril le régime institué après le coup d'État de Cromwell. Lelburn fut acquitté, mais le nouveau Parlement décida de proroger sa détention, et ce, quasiment jusqu'à sa mort. Alors, entre le moment de son arrestation et son procès, Lelburn, donc dans le courant du printemps 1649, Lelburn rédige dans plusieurs pamphlets son propre plaidoyer. Je voudrais dire à présent quelques mots du dernier d'entre eux, qui s'intitule « The Just Defense of John Lelburn », qui est un récit autobiographique daté par le collectionneur Thomason du 25 août 1653, mais qui fut probablement rédigé avant, dans lequel Lelburn raconte son engagement en faveur des libertés publiques et les multiples déboires dont il fut victime, symbole d'un pouvoir arbitraire et tyrannique. Les formes de ce pouvoir tyrannique furent diverses. parce qu'il en a connu hein, des séjours en prison, le pauvre Lelburn. Donc arbitraire de la justice royale, absolutisme parlementaire presbytérien comme indépendant, autoritarisme des grandees de l'armée et enfin tyrannie républicaine. Il s'inscrit pour commencer, j'assume, dans la lignée des victimes de persécution, et on peut lire en filigrane l'influence du livre des martyrs de John Fox, bien que The Just Defense ne soit pas à proprement parler un récit martyrologique. Lelburn explique que sous le règne de Charles Ier, il se mobilisa pour la liberté contre toute forme de détention arbitraire, emprisonnement dont il fut lui-même victime. L'histoire personnelle, celle de sa victimisation, est inséparable de la description de sa mobilisation au service des libertés. De la même manière, il rappelle que son engagement pour la liberté de conscience contre l'imposition de serment prend racine dans sa propre expérience de justiciable devant un tribunal. Il ne s'agissait pas moins pour lui, en défendant des droits d'homme libre, « my native rights », comme il dit, de lutter pour les droits du peuple d'Angleterre, « the rights of every Englishman », contre toutes les formes d'oppression. Il défendit notamment la liberté de conscience contre le dogmatisme religieux incarné par le Long Parlement, dont il dénonça les dérives absolutistes, en particulier à l'encontre des non-presbytériens. Comme Sexby, donc Long Parlement avant la purge de décembre 1648. Comme Sexby, il s'opposa en 1647 aux officiers supérieurs de l'armée du nouveau modèle, dont il stigmatisa les tendances autoritaires et l'opportunisme. L'intérêt qu'ils manifestèrent à l'automne 1648 pour l'accord du peuple, l'agreement with the people, n'étant selon lui qu'une tromperie destinée à s'attirer les bonnes grâces des soldats. Il est vrai que Lelburn quitta les débats de Whitehall qui accouchaient en décembre 1648 de la deuxième version de ce projet de constitution, lequel fut promptement enterré par le Parlement croupion au moment de la mise en place du Commonwealth. The Agreement with the People connut trois versions différentes. La première fut discutée pendant les débats de Pulteney en 1647. La deuxième fut discutée au moment des débats de Whitehall, donc en décembre 1648. Elle fut enterrée par le Parlement croupion au moment de la mise en place de la République. Et la troisième vit le jour alors que les Niveleurs étaient emprisonnés à la Tour de Londres le 1er mai 1649. Et c'est donc la troisième version qui fut exportée en France. Voilà, donc c'est la dernière mouture, si vous voulez, et cette dernière mouture porte le nom déniveleur, Cromwell, Overturn, Prince, et j'oublie le quatrième, ça va pas me revenir, j'oublie le quatrième, non, bon, écoutez, Overturn, bon, ça me reviendra après, c'est pas grave. Lelburn retrace ensuite la campagne qu'il mena contre le pouvoir supposément usurpé des dirigeants de la République, pouvoir qu'il combattit avec force dans plusieurs pamphlets, dont les deux parties de England's New Chains Discovered, qui lui valut d'être mis aux arrêts à la Tour de Londres. Je reviendrai brièvement sur ce texte un petit peu plus loin. Lelburn conclut son récit autobiographique par une affirmation de son engagement à défendre les libertés et les droits du peuple contre les prévaricateurs de toutes sortes, ceux avec lesquels il a eu maille à partir personnellement, comme ceux qui font planer sur l'Angleterre l'ombre de la tyrannie. En revanche, dans son récit, il fait preuve d'une clémence peu coutumière à l'égard de Cromwell, qui ne fut pourtant pas étranger à nombre de ses mésaventures, et témoigne envers lui d'une forme de déférence inhabituelle qu'il n'avait pourtant pas manifestée dans des écrits antérieurs, même récents, antérieurs de quelques mois par exemple. Alors peut-être cela est-il dû, tout simplement, au fait que Lelburn devait la fin de son bannissement et son retour en Angleterre à la dissolution par Cromwell du Parlement croupion en avril 1653, bannissement qui, dès lors, n'avait plus de base légale. Le coup d'État perpétré par Cromwell représenta donc pour lui une aubaine qui pourrait expliquer sa relative mansuétude à l'égard du protecteur. Pourtant, l'inlassable mobilisation de Lelburn en faveur des libertés publiques en 1649 ne ménagea pas Cromwell, loin s'en faut, même s'il ne rédigea pas d'écrits tyrannicides au sens où ceux-ci, à l'instar de Killing No Murder, contribuèrent à une réflexion théorique sur l'acte même du tyrannicide, théorisation plus ou moins emprise sur l'histoire contemporaine, il pointa du doigt dans ses pamphlets la responsabilité de certains, dont Cromwell, dans les dérives autoritaires du Commonwealth, et appela à ce qu'on mit ces malfaiteurs hors d'état de nuire. Alors, il est vrai que la question du couronnement de Cromwell n'était pas encore à l'ordre du jour, au moment où il rédigea The Just Defense. Alors, je voudrais revenir à ce texte hybride qu'est England's New Chains. Hybride parce que mi-pétition, mi-pamphlet, donc ce texte que j'ai évoqué, et qui est une attaque virulente contre, je cite, « les secret contrivers qui dirigent le pays », expression peu amène derrière laquelle se cachent les noms de Cromwell et de son gendre Ireton. Selon les auteurs du texte, dont Lelburn figure en bonne place puisqu'il s'agit d'une pétition, non, il n'est pas le seul signataire, le Parlement croupion est soumis au Conseil d'État, et je crois d'ailleurs que, voilà, ça c'est The Just Defense, et voilà, the second part of England's New Chains Discovered. Donc, selon les auteurs du texte, le Parlement croupion est soumis au Conseil d'État, qui est lui-même inféodé à Cromwell et à son gendre. Je cite, « By this Council of State, all power is got into their hands. » Lilburn dénonce le piétinement des libertés par une oligarchie parlementaire et une caste dirigeante dominée par deux hommes, piétinement qui se traduit notamment par une loi punissant sévèrement les auteurs de pétitions jugées séditieuses. Il condamne cette forme d'asservissement qui s'exerce en violation des serments, engagements, pris par l'armée au printemps 1647. À mon avis, ce sont des serments fondateurs. Ils datent du mois de juin 1647, sous la pression des agitateurs, dont Sexby. Une des demandes figurant dans ce texte, England's New Chains Discovered, concerne la dissolution du Conseil d'État, accusé de faire peser sur le pays la menace de la tyrannie. Le pouvoir exécutif serait donc confié à des commissions issues du Parlement, devant siéger pendant de courtes périodes, afin d'empêcher toute confiscation de l'autorité. Cette formule fut reprise à l'identique dans la troisième version de l'accord du peuple, rédigée par Lelburn et ses compagnons emprisonnés. Et c'est cette formule qui donna lieu, dans la traduction française qu'en fit Sexby à l'intention des frondeurs de l'armée bordelaise, à une ambiguïté relative à l'instauration ou non d'un Conseil d'État, ambiguïté que j'ai évoquée dans la première partie de mon propos. Je trouve que là, ce sont des débats tout à fait actuels. Hein. Quand on voit la façon dont Johnson s'est moqué du Parlement britannique. Bon. Lilburn, enfin, voilà, je ne voudrais pas me polémiquer. Lilburn appelle les soldats de l'armée du nouveau modèle, du moins ceux qui n'ont pas été sensibles aux sirènes du Commonwealth, à faire obstacle au pouvoir hégémonique de Cromwell et d'Ireton. Il y aura d'ailleurs dans le courant du printemps 1649 des rébellions qui seront matées dans le sang, répression qui participa d'une martyrologie niveleuse, encore célébrée aujourd'hui par les organisateurs de la Levelers' Day à Burford. Oui, oui, ça existe encore. Alors, ils sont de moins en moins, paraît-il. Je crois qu'il y a deux ans, la journée n'a pas eu lieu, mais oui, il y a des célébrations. Ça commence par des chants, et puis il y a un extrait de manifeste de Lelburn qui est lu, et puis des prières, voilà, et une procession. Soutenue par la gauche du Parti travailliste, notamment. Voilà. Donc, il y a une résurgence, si vous voulez, des niveleurs dans la culture populaire, y compris dans la chanson, d'ailleurs. Il y a eu un opéra, enfin une œuvre opératique qui est dédiée justement à Lilburn, consacrée à Lilburn. Lilburn appelle les soldats du niveau de... Alors, dans un pamphlet de 1647, « The Jugglers Discovered », dans lequel il écrivit que Sexby était en possession de certains de ses écrits, dont j'ai parlé en préambule, Lelburn avait condamné son propre emprisonnement arbitraire par la Chambre des Lords, brocardé ceux aux communes qui s'en étaient rendus complices, dont Cromwell et Ireton, jugés coupables d'intentions tyranniques, et je cite Lelburn, « Their tyrannical intended tyranny and lordly domination » et brandit la menace de recourir aux soldats de l'armée pour qu'ils leur tranchent la gorge. En 1647, hein, « To cut their tyrannical throats, though I perish with them. » À la tyrannie que représentent Cromwell et ses affidés, Lilburn oppose les libertés fondamentales du peuple d'Angleterre ancrées dans le droit naturel, liberté qui s'incarne singulièrement dans l'accord du peuple, tout ensemble projet de constitution et serment, semblable à ceux qui furent prononcés au sein de l'armée. La formule « We the free people of England » prélude d'ailleurs à l'exposition des clauses de l'accord. ça commence comme ça, « We the free people of England ». Voilà, je vais conclure à présent, et je souhaiterais conclure mon propos par une justification a posteriori de cette présentation croisée de Saxby et de Lilburn en leur qualité de défenseurs des libertés contre Cromwell. Les deux hommes se connaissaient, comme je l'ai dit, et il y a fort à parier qu'ils se soient rencontrés dans l'armée de l'Eastern Association en 1643-1644, années pendant lesquelles tous deux côtoyèrent Cromwell. Puis, dans l'armée du nouveau modèle, comme institution matricielle ayant permis la pénétration et la diffusion d'idées émancipatrices. L'apport du radicalisme religieux, riche de ses diverses tendances puritaines, contribua amplement à faire de l'armée un creuset dans lequel s'élabora en grande partie la défense des libertés politiques et religieuses. Aux yeux de Lilburn et de Saxby, les positions prises par Cromwell en diverses occasions signifièrent le risque d'un retour en arrière pire que l'absolutisme monarchique. C'est à ce titre qu'ils le qualifièrent de tyran et le combattirent, Saxby allant même jusqu'à commanditer son assassinat. Résister à Cromwell, c'était rendre sa liberté au peuple d'Angleterre. Pourtant, cette résistance à Cromwell ne fut pas continue. Ni Lilburn ni Saxby ne considérèrent de part en part Cromwell comme un tyran. Leur combat pour les libertés publiques, en revanche, semble avoir été marqué par une certaine constance et par une résistance inébranlable à tous ceux qui, pour eux, à un moment ou un autre, et j'insiste sur « à un moment ou un autre », incarnaient une autorité attentatoire à ces libertés. C'est ce qui les conduisit notamment à s'opposer, en fonction des aléas historiques, à Cromwell. Et je crois qu'on aurait tort de sous-estimer le poids et le sens des trajectoires individuelles dans la compréhension et la mise en récit de cette période troublée de l'histoire d'Angleterre, instant de vie, fait de défiance à l'égard du pouvoir, mais aussi parfois d'accommodement. L'étude de cette trajectoire singulière, en regard d'autres trajectoires, tout aussi singulières, me paraît être un enjeu historiographique fort. Ces parcours se croisent parfois, se décroisent, voire se superposent en un ensemble réticulé, en une forme de réseau, de toile d'araignée. Et la mise à jour des points nodaux permettant la reconstruction de cette toile humaine éclaire ainsi l'événement considéré dans sa nudité, en lui donnant chair. Et c'est à ce titre, je crois, que les destins de John Lilburn et d'Edward Saxby méritent d'être retissés ensemble. Voilà, je vous remercie.
Merci.
J'espère avoir couvert les délais.